Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Laure Grand Besançon et Eva Ferenczi, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Tristan Gratalon. La gourmandise ce matin consistera à contredire l'un des sponsors de l'émission, Émile Cioran, qui affirmait que le renoncement était la seule variété d'action qui ne fût pas avilissante. Il est aisé de se diriger vers la pente naturelle nous conduisant à la déchéance. Il suffit de ne rien faire. Écoutons plutôt la recommandation de Goethe. Garde-toi dans la vie de rien différer, que ta vie soit l'action, encore l'action. Ou la lucidité de William Blake, le désir non suivi d'action engendre la pestilence. Je vous dis cela, chers auditeurs, à demi-pestilente, du fin fond de ma paresse, mais si cette solennelle introduction pouvait donner une impulsion de mouvement à 1% d'entre nous, alors nous pourrions encore croire à ce qu'on nomme sublimation. Notre apothicaire de l'âme est un violoniste qui allie l'ascétisme du soliste à l'effervescence de l'homme d'ensemble. Entre ses 120 concerts par an et ses fréquentes collaborations avec de prestigieux orchestres internationaux, il enseigne son instrument à la Haute École de Musique de Lausanne, où il vient de créer l'ensemble à cordes Lausanne Soloiste. Il assure également la direction artistique du festival Les Sommets Musicaux de Gstaad et celle du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence qu'il a créé en 2013 avec Dominique Bluzet. Rien n'est plus important que la transmission, affirme celui qui eut comme mentor le chef d'orchestre italien Claudio Abbado et qui veille dans ses festivals à ce que les jeunes pousses se mélangent aux grandes pointures. Notre apothicaire apprivoise le temps, il honore aussi bien les compositeurs contemporains vivants en leur passant commande que les maîtres classiques décédés dont il interprète les compositions. Saluons tout de go cette âme démocratique. Bonjour Renaud Capuçon.
Bonjour.
Dans une interview, vous dites que vous étiez un enfant un peu bizarre qui aimait l'école et donc qui n'a jamais éprouvé ce fameux blues du dimanche soir. On est dimanche matin et je vous demande ça, et c'est sur toute votre vie évidemment, quel rapport entretenez-vous avec la mélancolie ?
Oui, j'ai un rapport permanent avec la mélancolie. Elle fait partie de moi en tant qu'artiste, en tant que musicien, en tant qu'être vivant. Mais c'est une mélancolie très douce en fait. C'est une mélancolie parce que j'ai eu la chance d'être un gamin heureux et qui a une enfance heureuse. Mais tout petit, j'avais cette espèce j'avais déjà cette mélancolie, c'est très étrange, comme si elle était déjà en moi très jeune. J'écoutais des opéras, j'écoutais de la musique et je me réfugiais dans la musique alors que j'avais pas besoin de me réfugier. Ma vie était celle d'un petit garçon très heureux avec des parents formidables on avait tout ce qu'il fallait à la fois pour vivre, on avait plein d'activités, etc. Mais je crois que la nostalgie a été une chose qui était assez présente de façon par petites touches, bien sûr, mais c'est voilà, quelque chose qui a toujours été présent dans ma vie.
De la façon dont vous en parlez, on vous imagine plutôt la goûter, alors la savourer, cette mélancolie. Quand on a eu une enfance très heureuse, on est nostalgique toute sa vie, non ? Il y a une sorte de paradis perdu qu'on cherche à retrouver ?
Oui, d'une certaine façon. Alors, avec le paradoxe d'essayer justement d'être, sinon aussi heureux, en tout cas, de vivre sa vie dans une forme d'action, d'être dans l'action, dans la réalisation de projets qui vous mettent en joie et qui vous permettent de passer outre cette mélancolie. Mais en même temps, elle est présente parce que j'ai l'impression que si on aime l'art, si on aime la littérature, si on aime la musique, on a ce besoin de se replonger en permanence dans ces œuvres d'auteurs morts, de compositeurs mort, de se replonger dans des livres, des vieux livres, des vieilles photos, et donc de fait on devient nostalgique. Mais c'est quand c'est une nostalgie qui est voulue, je dirais, et qui est une nostalgie, c'est presque une nostalgie bienheureuse d'une certaine façon. C'est comme une crème apaisante, on va dire.
Et quand elle met en scène d'autres personnages que soi, c'est un peu plus facile d'y assister sans heurts.
Aussi, et c'est vrai que il peut y avoir des gens qui sont associés à sa vie ou certaines personnes qui sont pas du tout associées. Il y a aussi une partie du rêve. Je pense que la nostalgie, elle peut être rêvée aussi. Et c'est ce qui fait qu'on est un artiste, je pense.
Donc vous ne voulez jamais vous en débarrasser de cette mélancolie quand elle vous approche?
Non, je suis plutôt du genre à, si elle m'approche, je suis plutôt du genre à y plonger de façon presque gourmande.
Bon, bah, s'il vous en manque, nous sommes plusieurs à pouvoir vous en donner. J'annonce le sommaire aux auditeurs. Renaud Capuçon, vous allez convoquer dans quelques instants Philippe Noiret, Stéphane Zweig, La Mélodie, Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel de L'Action du Ski et le peintre Lucio Fontana, juste après le morceau Twin Shadows du groupe Canine. The forest dark, but the moon is clear. My feet move, I fly silently. I know my aim, the night's game. All the same, it can't happen. When I research, breathing the sweet heat, from wrapping myself, supporting my feet, I raise my à la mélancolie sur France Inter en compagnie du violoniste Renaud Capuçon.
Alfredo, tu le connaissais bien, mon père dit.
Ah, je pense bien que je le connaissais, ton père. Il était grand, sympathique, avec des petites moustaches, comme ça. Il souriait toujours, il ressemblait à Clark Gable.
Alfredo,
oui.
Maintenant que je suis plus grand et que je suis au cours moyen, je dis pas que je pourrais commencer à venir dans la cabine, non. Mais peut-être, pourquoi ne deviendrait-on pas ami?
Clark Gable. 1988, Cinéma Paradiso de Giuseppe Tornatore avec Philippe Noiret qui joue Alfredo, le projectionniste de la salle de cinéma paroissiale du village, et Salvatore Cascio, le héros, un petit garçon fasciné par l'univers d'Alfredo. Ça commence de façon très mélancolique. Là, on se le disait hors antenne, tous vos remèdes sont assez mélancoliques, Renaud Capuçon.
Oui, c'est comme une sorte de vaccin, une certaine façon. Mais regarder ce film, c'est un bonheur. Moi, je me souviens d'avoir été tellement bouleversé par le rapport de ce petit garçon avec Philippe Noiret, qui joue d'ailleurs de façon géniale. Et puis, ce qui se dégage de ce film, c'est beaucoup de simplicité. C'est la beauté des rapports humains, en fait. C'est ce qui me touche, je pense. À la fin, dans l'art, dans la littérature, on verra aussi avec Fontana, c'est finalement la simplicité, l'art à l'état pur, quoi. Voilà. Et quand on a en entendant ces voix, j'avais des frissons parce que je revoyais des images et je ressentais surtout les mêmes émotions qu'il y a. C'est en 88, donc j'avais 12 ans. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué, ce film.
Parce que c'est une amitié filiale qui se développe entre les deux personnages, Noiret et Sol, dans sa cabine de projectionniste. Le petit garçon a perdu son père, qui est mort à la guerre. Il vit avec sa mère dans ce village sicilien. Et il est fasciné par le cinéma. En plus de ça, c'est une déclaration d'amour au cinéma, ce film.
Absolument.
Le cinéma, c'est presque sorcier dans ce film. Ça sort d'une bouche de lion en pierre. C'est magique.
Mais il y a ça, et puis ça c'est l'histoire, mais il y a aussi donc il y a la filiation, il y a la notion d'apprentissage, d'admiration.
Oui, de maître, de mentor, que
ce
vous
gamin
avez connu.
Qui, voilà, il y a cette notion aussi de rapport aux différentes générations que j'ai toujours, qui me touche aujourd'hui. C'est-à-dire que j'essaie d'expliquer par des mots aujourd'hui pourquoi j'ai aimé ce film à l'époque, mais je pense que c'est toutes ces raisons-là.
C'est magnifique. En tout cas, on pleure beaucoup.
Oui, c'est vrai qu'on pleure, je suis d'accord.
Vous êtes cinéphile, Renaud Capuçon, et je sais que vous allez, à la rentrée prochaine, sortir un disque autour des musiques de films chez Erato. Et il y aura un concert à l'Olympia le 14 octobre qui s'appellera Renaud Capuçon au cinéma. Vous serez accompagné par l'orchestre L'Amoureux. Et au programme, il y aura des musiques de films signées Cosma, Le Grand, Morricone. Et c'est justement Morricone, Ennio Morricone et son fils qui ont fait la musique de Cinéma Paradiso. Ça en fera partie, j'imagine.
Oui, bien sûr, bien sûr. L'idée, c'est vraiment de... On a fait une sélection de musique de films qui correspondent à un petit peu mon parcours d'amour avec le cinéma, c'est-à-dire des films que j'ai aimés, bien sûr avec des mélodies qui sont sublimes pour la plupart. Il y a aussi Out of Africa, il y a aussi La Liste de Schindler, enfin beaucoup beaucoup d'œuvres comme ça, et d'auteurs français aussi comme Desplat, comme Cosma. Et donc je me réjouis beaucoup parce que ça sera mon clin d'œil sur le cinéma, et aussi pour dire que la musique de film est une musique qui n'est pas une musique dont il faut avoir peur en tant que musicien classique, parce que très souvent, pas avoir peur, mais on pense que la musique de film, c'est un peu une musique mineure, et pas du tout. La musique de film, c'est... Faut pas oublier que Korngold, qui est ce grand compositeur, c'est lui qui a inventé quasiment la musique de film quand il est parti de... Il a fui le nazisme et qu'il est parti à Los Angeles. Et voilà, et de lui, ensuite, a eu une filiation incroyable de compositeurs de musique de film, jusqu'à Desplat aujourd'hui en France.
Il y aura Mancini aussi.
Bien sûr, bien sûr. Et absolument.
Je pense, alors là ça va paraître décousu d'enchaîner sur ça, mais pour revenir à Cinéma Paradiso, j'aimerais qu'on revienne sur un des aspects du film, parce qu'il en sera question dans votre sérum littéraire. Il y a un côté aussi de grand romantisme, de lyrisme, d'amour transi. Et je pense à un moment du film où le héros tombe amoureux d'une femme qui n'est pas amoureuse de lui, et lui dit, en prenant exemple sur un conte que lui a raconté le projectionniste Alfredo, un conte où un prince attend pendant 100 nuits sous la fenêtre d'une princesse pour lui montrer, d'ailleurs c'est pas un prince lui, pour lui montrer qu'il est vraiment amoureux d'elle, et puis s'il tient 100 jours, peut-être qu'elle se donnera à lui. Et quand cette femme lui dit non, je ne suis pas amoureuse de toi, il fait la même chose que l'homme du conte, et il attend sous sa fenêtre pendant 100 nuits. Ça va revenir, ça vous touche ça, Renaud Capuçon?
Parce qu'on va en parler
chez Sveg.
Bien sûr, ça fait partie des choses. Moi j'ai passé toute mon enfance à être le petit garçon qui s'endormait le soir en rêvant de sa princesse qui arriverait un jour. Donc je m'endormais vraiment en rêvant j'avais été bercé par ces espèces de contes, et puis c'était ma propre imagination. Donc évidemment que chaque fois qu'il y a des images comme ça, ça vous conforte quand vous avez 12 ans, que vous rêvez, que vous êtes encore entre l'âge d'enfance, un peu l'adolescence, le début de... Vous êtes un peu adulte aussi, parce que j'étais très, très adulte dans ma façon de travailler, mais très jeune dans ma façon de penser et d'aimer.
Comme Mozart.
Oui, non, Mozart était génial très très tôt, c'est très différent. Moi je partage uniquement sa date de naissance.
Moi je partage son humour potage dans les correspondances, c'est tout.
Thank you.
Extrait de votre dernier enregistrement, Renaud Capuçon, les concertos pour violon de Béla Bartok avec l'Orchestre Symphonique de Londres, dirigé par François-Xavier Roth. On entend le mouvement Allegro non troppo, extrait du concerto numéro 2. Votre remède à la mélancolie principale, et c'est plutôt une bonne nouvelle au regard de ce que vous faites, c'est la musique, celle que vous jouez et celle que vous écoutez.
Oui, j'en joue beaucoup plus que je n'en écoute aujourd'hui, parce que je passe une grande partie de mes journées et une partie de mes nuits, puisque je suis sur scène, à jouer de la musique, et j'en ai énormément écouté entre l'âge de 5 ans et l'âge de 35 ans, je dirais, ou 30 ans. Je suis allé beaucoup à des concerts, j'écoutais beaucoup de musique, et c'est vrai que la musique fait partie totalement de plus que de ma vie, elle fait partie de ma façon d'être. Je suis presque, comment dire, totalement, je vis en musique, on peut dire. Donc les moments de silence sont les bienvenus aussi. Et en vacances, je privilégie énormément les moments de silence, comme pour d'abord pour avoir ce rapport à la nature, parce qu'il y a des bruits, des sons qu'on n'entend plus dans les villes, et puis parce que j'ai tellement de musique en moi, dans ma tête, dans mon âme en permanence, que j'ai besoin d'un petit moment de répit.
L'apprentissage de la musique s'est fait dans le labeur, et c'est important de le rappeler, puisque je trouve que ça donne du courage, en tout cas en ce qui me concerne, et je pense aussi aux auditeurs, de savoir que les choses, le génie, c'est du travail. Et vous dites par exemple dans une interview, je trouve ça assez joli, je suis le contraire du mec fulgurant. Vous dites que votre évolution a été lente et naturelle.
Oui, pas dans le sens où c'est pénible, etc. Mais je suis pas le mec fulgurant dans le sens où voilà, Mozart est un mec fulgurant. Mozart, c'est un génie. Vous en avez quelques autres comme ça, bien sûr, dans les siècles. Vous avez des interprètes comme Menuhin qui ont été des types fulgurants, qui jouaient à 6 ans des concertos de Brahms et qui étaient exceptionnels. C'est absolument pas mon cas, et on ne se choisit pas, c'est comme ça. Donc j'ai aucun regret ou envie. Il se trouve que je me suis construit avec le temps, et d'une certaine façon, j'ai pu consolider chaque marche. Voilà, chaque marche a été gravie avec, sinon réflexion, elles le sont maintenant avec plus de réflexion qu'elles ont été gravies, ces marches, à l'époque, puisqu'elles étaient naturelles. Mais les choses sont faites petit à petit, oui.
À 12 ans, la première sonate de Brahms vous brûle le cou et vous fait saigner les doigts. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui vous sentez toujours en apprentissage, Renaud Capuçon, vous avez ce même genre d'épreuve?
Oui, exprimé différemment, mais j'ai des défis parfois qui sont... Ma famille me dit parfois, ma femme me dit, mais pourquoi tu t'es mis ça en plus? Est-ce que tu avais besoin de jouer telle œuvre? Et c'est vrai que parfois je travaille jusqu'à 4 heures du matin, ou parfois je dors 3 heures par nuit, parce que j'ai décidé d'aller au bout d'un défi, parce que j'ai accepté un concert, et parce que je veux le faire à fond. Donc peut-être certains annuleraient, ou certains... renoncerait. Moi, je fais partie des gens qui vont au bout parce que d'abord j'ai cette espèce, c'est peut-être, est-ce que c'est de l'orgueil, je sais pas, c'est une façon d'avancer, et au-delà de ça, c'est une façon aussi de respecter l'engagement pris. Au-delà encore de ça, c'est de tous ces projets que j'entreprends, c'est parce qu'il y a toujours un moteur d'envie, il y a une curiosité, donc c'est pas pour être partout tout le temps, mais c'est pour assouvir cette soif de musique que j'ai, en fait.
Vous dites, Renaud Capuçon, que c'est lorsqu'on comprend qu'on est mauvais que tout commence. Est-ce qu'il vous arrive d'être satisfait de votre travail?
Alors, en fait, j'ai l'impression qu'on progresse, oui, quand on est capable de se juger, quand on est capable de se critiquer. Il n'y a rien de pire. Il y a peu de temps, on me disait, mais vous avez 40 ans, vous êtes au sommet, donc qu'est-ce que vous avez à apprendre? Si j'avais répondu, mais oui, bien sûr, c'est formidable, je suis génial, mais j'aurais rien à dire, je pourrais m'arrêter, fermer la boîte du violon. Je pense qu'il faut se remettre en question tout le temps, il faut être... conscient des concerts où on peut être entre guillemets satisfait, mais satisfait ne veut pas dire comblé. Il y a des concerts où on peut, oui, 3 ou 4 concerts par an, on a l'impression d'avoir vraiment été au maximum de ce qu'on pouvait faire, mais il en reste 110 autres concerts où on progresse, on se dit que ça peut être mieux la fois d'après, et bien sûr que le public ne se rend absolument pas compte de ça. On donne à 100% à chaque concert, mais le rendu est ce que nous on a comme ambition pour les 20, 30, 40, 50 prochaines années. J'exagère un peu, évidemment, mais c'est de pouvoir progresser. Encore une fois, si j'étais satisfait après chaque concert, j'aurais pas grand-chose à raconter.
Vous arrive-t-il de jouer uniquement pour vous? J'ai lu qu'il vous arrivait souvent le matin, Renaud Capuçon, de jouer du Bach comme une sorte de douche de l'âme, vous dites.
Non, j'en écoute le dimanche matin. Ah. J'en écoute. J'en jouais plus qu'avant. J'en joue parfois. Bach, c'est un vrai sujet pour moi. C'est le plus grand compositeur, clairement, qui ait jamais existé. C'est notre père à tous. Je tremble devant Bach. Je suis extrêmement fragile. Et donc, j'ai un rapport quasi religieux à Bach. Et donc, je projette de jouer les sonates et partitas qui sont l'apogée des œuvres pour violon seul. Et je les joue, mais même pour moi seul, j'ai trop de respect et je me sens trop mauvais encore pas encore assez à la hauteur pour les jouer seulement devant mes oreilles. Donc je préfère écouter des œuvres de Bach et je joue les concertos, je joue des œuvres de musique de chambre et je vais bien sûr jouer les sonates et partitas, mais il me faut encore quelques années.
On attendra alors. Sans la musique, la vie serait une erreur, affirmait Nietzsche. Ne contrarions ni le philosophe, ni la programmation musicale de France Inter. Voici un nouveau titre de Flavien Berger qui donna aussi ses remèdes, Brutalisme.
Un peu plus de minutes avant jamais. Ralenti, ralenti, on est trop près. Dernier mot sur la plage d'Acapulco. Tous les deux sous le même kimono. Un peu plus de minutes avant l'avion. D'où tu verras les lignes et les rayons. Que dessine mon quad sur le sable. Tes larmes dans l'air climatisé. Oh. Ultime bain, noie ton chagrin. Je ne suis pas loin. En vrai, je te rejoins le mois prochain. Je vais t'aimer. Éternité. Un peu plus de minutes avant l'après. Au matin, j'ai le visage griffé. T'as zoomé dans mes plaies une fois encore. Tu vois mon épiderme, c'est la vallée de la mort.
Inter, remède à la mélancolie, en compagnie de Renaud Capuçon et de Stéphane Zweig. L'auteur de votre sérum littéraire, Renaud Capuçon, Lettre d'une inconnue, une nouvelle de Zweig publiée en 1922 dans un quotidien autrichien, ça se passe à Vienne et je vous laisse nous raconter de quoi il s'agit.
Bah, c'est une histoire d'amour incroyable, d'amour impossible en fait. D'une certaine façon, c'est une dame qui déclare son amour, je vais le faire dans ce sens-là, qui déclare son amour dans une lettre. Qui raconte en fait une histoire incroyable qu'elle a vécue avec la personne à qui elle écrit, cet homme, avec qui elle a eu une nuit, une aventure.
Même deux aventures.
Deux aventures. Et voilà, ensuite, elle a disparu de sa vie. Et simplement, elle a vécu toute sa vie amoureuse, transie de cet homme-là. Et elle lui raconte toute sa vie, qui est, et c'est, je veux pas dévoiler voilà, les tenants et les aboutissants, mais c'est peut-être une des... Je me souviens très bien le jour où j'ai lu cette lettre. C'était avant un concert. Une de mes amies musiciennes, j'avais 20 ans, à peine 20 ans, 18 ans peut-être, elle m'avait dit, tu devrais lire cette lettre. J'avais dit, oui, je la lirai dans quelques jours. Elle m'a dit, non, je l'ai là et tu vas la lire avant le concert. Et c'était 15h, l'heure de la sieste que je fais avant le concert. Et elle m'a dit, tu vas voir, ça se lit rapidement. Et je me souviens, ça m'avait, mais encore une fois, tel point cette lettre m'a marqué. Je me souviens de l'heure à laquelle je l'ai lue, avant quel concert. Et je l'ai lu, je sais pas combien de fois ensuite, j'ai été bouleversé par cette œuvre. Ça a correspondu aussi à ça correspondait complètement à cette idée de ce qu'on fait dans le côté romantique quand on a 18 ans, d'âme transie, d'amour, etc. Donc il y avait quelque chose de, que je me suis approprié, bien sûr, mais au-delà de ça, ça m'a parlé. J'ai lu ensuite quasiment toutes les nouvelles de Zweig. Et j'ai surtout pu faire un rapprochement avec des œuvres musicales. Par exemple, cette lettre d'une inconnue, j'ai souvent, quand j'ai découvert les Métamorphoses de Richard Strauss, qui est une de mes pièces préférées de l'histoire de la musique, je trouve qu'il y a quelque chose. En tout cas, dans mon univers, on peut assembler cette œuvre littéraire et cette œuvre musicale. Pour quelle raison, je ne saurais pas vous l'expliquer, ça n'aurait pas de sens. Mais dans mon imagination, si je rêvais d'une musique pour cette œuvre-là, je mettrais cette musique-là. J'ai vu le film de Ophuls, qui est un magnifique film, qui est fidèle, bien sûr, à Zweig, mais qui est aussi une interprétation, d'une certaine façon. Mais je trouve que la musique est peut-être la seule art qui pourrait exprimer exactement ce qu'exprime cette lettre avec les mots.
Pour les auditeurs qui n'auraient pas lu cette lettre, en fait, la femme qui écrit la lettre a 13 ans lorsque pour la première fois un écrivain emménage sur le palier en face de chez elle. Et de l'âge de 13 ans jusqu'à la fin de sa vie, elle va nourrir une passion dévorante pour lui. Elle lui écrit une lettre le jour de son anniversaire pour lui dire...
Pour ses 41 ans, ouais.
Tu ne me connais pas, tu ne m'as jamais vu, tu ne sais pas qui je suis. Pourtant, on s'est rencontrés à plusieurs reprises et ça fait des années que je suis folle amoureuse de toi et que je t'épie et que je ne fais que penser à toi et que ma vie n'est qu'un sacrifice et enfin, elle s'est un peu enterrée vivante malgré tout pour lui. Parfois, on est un peu révolté pendant cette lettre.
Oui, bien sûr. Mais en même temps, il y a quelque chose de tellement... c'est un jusqu'au boutisme total, quoi. Donc, c'est vraiment pour moi ce qu'est le romantisme dans toute sa splendeur.
Vous auriez un petit extrait à nous lire, Renaud Capuçon.
C'est à toi seul que je veux m'adresser. C'est à toi que pour la première fois je dirai tout. Tu connaîtras toute ma vie qui a toujours été à toi et dont tu n'as jamais rien su. Mais tu ne connaîtras mon secret que lorsque je serai morte, quand tu n'auras plus à me répondre, quand ce qui maintenant fait passer dans mes membres à la fois tant de glace et tant de feu m'aura définitivement emporté. Si je dois survivre, je déchirerai cette lettre et je continuerai à me taire comme je me suis toujours tue. Mais si elle arrive entre tes mains, tu sauras que c'est une morte qui te raconte sa vie qui a été à toi de sa première et à sa dernière heure de conscience. N'aie pas peur de mes paroles, une morte ne réclame plus rien. Elle ne réclame ni amour, ni compassion, ni consolation. La seule chose que je te demande, c'est que tu croies tout ce que va te révéler ma douleur qui se réfugie vers toi. Crois tout ce que je te dis, c'est la seule prière que je t'adresse. On ne ment pas à l'heure de la mort de son unique enfant.
Lettre, que ça donne, oui, ça donne le là.
Ça donne le là.
Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig et maintenant une page de publicité. Now with eagle eyes that actually move. On the lookout for action. Up in the mountains. Down in the jungle. He drops from the skies. And rises from the depths. He's all action. Look out for all these fantastic uniforms specially designed for Action Man and his eagle eyes. Réclame de 1977 pour la figurine Action Man qui, comme vous, Renaud Capuçon, n'est qu'action. C'est votre système de pensée anti-spleen, l'action, que Charlie Chaplin qualifiait de musique. Ne me demandez pas ce que ça signifie. Est-ce que vous agissez facilement et est-ce que vous n'êtes pas possédé par la pensée, la passivité? Vous agissez, vous êtes vraiment un homme d'action.
Oui, je suis un type qui bouge, oui.
Enfin, quand on regarde votre emploi du temps, on s'en doute.
Non, mais au-delà de ça, quand je dis un type qui bouge, c'est pas tellement, pas que physiquement, c'est pas de
Parce
faire
qu'on
des voyages.
On peut s'agiter dans le vide.
Oui, non, ça, j'ai pu le faire quand j'étais plus jeune. Et passé mes 40 ans, c'est vrai que depuis un certain temps, maintenant, il y a vraiment des choses que je n'aurais pas faites à l'époque. par peur ou par pensée, de me dire qu'est-ce que vont penser un tel ou un tel. Depuis que j'ai 40 ans, ça correspond, c'est pas parce que c'est 40 ans, mais il se trouve que depuis quelques années, quand j'ai une idée, je fonce, quitte à me prendre un mur ou quitte à aller à un échec, mais je suis dans l'action. J'ai toujours été dans l'action depuis assez jeune. J'aimais au conservatoire de Paris, organiser des soirées de musique de chambre où on lisait de la musique. Donc j'étais plutôt un entreprenant, dans le sens, pas tant avec les filles, j'étais beaucoup plus timide, j'étais plus entreprenant avec le fait d'organiser des soirées de musique de chambre, de lire de la musique. Et voilà, peut-être que ça fait partie de ma personnalité, peut-être que ça fait partie d'une forme d'angoisse inconsciente qu'il y aurait chez moi, au fond, quelque part, et que je découvrirais si je vais faire une psychanalyse. Mais l'essentiel de tout ça, c'est que ça me fait avancer et que ça me fait créer des choses, et pas seulement pour moi. C'est ça l'idée, c'est que c'est pas avancer pour ma gloriole personnelle, c'est avancer pour construire et avancer pour faire... rencontrer des jeunes, pour que aider mes élèves, pour, enfin, d'innombrables choses qui me font plaisir, bien sûr, mais qui font, j'ai l'impression, avancer un tout petit peu le monde dans lequel je suis.
Vous ne vous sentez jamais paresseux, vous ne vous dites jamais à quoi bon ?
Si, je suis paresseux quand, justement, des rares fois où le réveil est à 7h et que je me réveille à 8h moins quart, et là je me dis, mon Dieu, mais t'es paresseux, puis après je me dis, quand même, faut pas exagérer. Des moments comme ça où je me rends compte qu'en fait je suis extrêmement sévère avec ma façon d'être dans la vie par rapport à l'action, et en même temps cette façon d'être me pousse tout le temps de l'avant.
Alors j'ai lu que parfois après un récital en matinée, vous vous sentez vidé, Renaud Capuçon, vous avez une chute d'adrénaline terrible, et quand en plus vous devez prendre un avion à ce moment-là, vous vous sentez presque déprimé. Et vous dites que la solution dans ces cas-là, c'est d'imaginer les bonnes choses qui arriveront après, donc anticiper, ce qui est le contraire de l'action, c'est l'imagination là.
Oui, alors il se trouve que c'est vrai que les concerts du matin sont les plus durs à gérer pour l'après, parce que quand vous avez un concert du soir, cette chute d'adrénaline, vous l'avez, mais il y a un moment où vous dormez, même si c'est très tard, parce qu'il y a quand même l'adrénaline qui descend, mais vous avez un moment de partage avec les musiciens souvent, et le moment où vous retrouvez dans votre chambre seul, il s'est passé du temps, et après on va dormir. Les concerts de 11h le matin, très souvent vous avez un vol l'après-midi, et vous avez un déjeuner, et c'est vrai qu'on a la baisse d'énergie, elle se fait dans l'après-midi, et c'est très dur, parce que là, à ce moment-là, dans mon cas, il y a toujours une forme de mini déprime, enfin déprime, c'est beaucoup, avec beaucoup de guillemets, une forme de petite baisse de régime, qui fait que dans ce cas-là, on perd cette espèce d'énergie que j'ai normalement souvent.
Et c'est l'imagination dans ces cas-là.
Oui, et dans ce cas-là, il faut faire marcher l'imagination. Alors, il y a des moments où on n'a pas du tout envie de faire marcher l'imagination, on s'écroule juste et on est... voilà. Et d'autres moments où on pense à la suite, on se projette sur ce qui va... et c'est ce qui fait que j'arrive à être en permanence dans une forme d'action. Alors, ne pas confondre action et dispersion, et ne pas confondre action et stress, parce que plus je suis actif depuis quelques années, moins je suis stressé. Et parce que j'ai appris à gérer le temps d'une façon différente, j'ai changé ma façon de m'alimenter, de dormir, beaucoup de choses. Tout est mis au service de cette action pour qu'elle soit la plus sereine possible.
Quels sont les antidotes musicaux d'un musicien ? Un début de réponse par Monsieur Goldman.
Particulier dans un village dont le nom m'a échappé, faisait des souliers si jolis, si légers, que nos vies semblaient un peu moins lourdes à porter. Il y mettait du temps, du talent et du cœur, ainsi passait sa vie au milieu de nos heures, et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait.
En 1987, il changeait la vie de Jean-Jacques Goldman, qui vous a proposé de rejoindre Renaud Capuçon, la troupe des Enfoirés, pour les Restos du Cœur en 2016.
Oui, absolument, j'ai accepté avec plaisir. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, il est venu m'écouter à Londres avec le London Symphony. C'est un type incroyable. C'est bien sûr un héros de mon enfance, parce que moi j'écoutais ça, c'était les tubes qu'écoutait ma sœur, qui a 50 plus que moi. Et j'adorais ses mélodies, j'adorais cette chanson. Ça correspond aussi à la famille, on écoutait ça dans la voiture quand on faisait des voyages.
Avec Cabrel.
Et Cabrel aussi. Et j'ai la chance de rencontrer les deux, de jouer avec les deux. Et ce sont des deux chanteurs que j'admire beaucoup, d'abord pour ce qu'ils sont en tant qu'artistes et aussi pour ce qu'ils sont en tant qu'êtres humains.
On écoute tout de suite celui que vous avez accompagné au violon sur la chanson « C'est écrit » lors du site d'Action de 2011.
Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec
ta petite voix, tes petites manies. Tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Petite furie, je me bats pour toi, pour que dans 10 000 ans de ça, on se retrouve à l'abri sous un ciel aussi joli que des milliers de roses. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour.
1977, Francis Cabrel, Petite Marie, titre d'abord interprété en 1974 lors d'un concours à Sud Radio à Toulouse qu'il remporte parmi 400 candidats. Ça lui ouvre les portes de la maison de disques CBS Records qui voudra gommer son accent sur la version de 77 et donc Cabrel fait une nouvelle version live en 91. Qu'est-ce que ça vous fait d'écouter cette chanson? Ça fait partie, Renaud Capuçon, des chansons que vous écoutiez en famille dans la voiture?
Oui, oui, mais ça fait partie, je pense, du patrimoine des Français. Je pense que tous les Français qui étaient en âge d'écouter cette chanson, ça leur rappelle des souvenirs, ça fait partie du patrimoine. Ce que j'aime particulièrement chez Cabrel, c'est la poésie. Il y a une vraie poésie qui pouvait s'apparenter avant à Brassens ou à Brel. C'est un poète, c'est quelqu'un qui est resté proche de la nature, proche de la vie, et ça s'entend dans sa musique. Il y a une vraie spontanéité, je trouve, une authenticité qui n'est pas feinte du tout.
Il y a un engagement aussi?
Bien sûr, un engagement. Ce sont des gens qui sont chez Goldman aussi. Encore une fois, ce sont des types bien. Je suis très sensible à ça. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas être fasciné par un musicien qui n'a pas été forcément un type bien, mais quand ce sont des gens bien, ça me plaît.
On ne vous en voudra pas pour ce choix. Dans un instant, on parlera du mouvement spatialiste. Le temps d'écouter un titre de 2012, Video Games, de Lana Del Rey.
Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I say you're the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on, go play a video game. It's you, it's you, it's all for you, everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now you do. Singing in the old bar, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing, pulling wild dots, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars, this is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes, this is my idea of fun, playing video games. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place.
On est dans la mélancolie sur France Inter, dans le musée psychique de Renaud Capuçon.
Monsieur Fontana, est-ce que vous êtes content de l'œuvre que vous avez terminée?
Mais je crois, credo que bisogna domandarlo all'amico Jeff. Per mio conto credo che la cooperazione è riuscita. Adesso la confermazione la deve dare Jeff.
L'artiste italien né en Argentine, Lucio Fontana, en 1961 sur la RTBF, dans un reportage consacré à son œuvre et à celle du Belge Jeff Verheyen, dont Fontana vient dans l'extrait qu'on entend de perforer la toile. Et à la question du journaliste, Fontana répond qu'il pense que la collaboration est réussie, qu'il ne reste plus qu'à avoir la réponse de l'ami Verheyen. Vous l'avez découvert à quelle époque, Renaud Capuçon, cet artiste?
Alors Fontana, je l'ai découvert grâce à mon ami Axel Vervoort, qui est un antiquaire belge, enfin flamand, qui est un spécialiste de beaucoup, beaucoup de choses et qui est un passionné d'art contemporain notamment. Et qui m'a fait rentrer dans l'univers de Fontana, d'abord parce que j'ai vu chez lui des œuvres de Fontana. Et puis, je me souviens, un jour, j'ai vu qu'il y en avait un petit tableau. Donc, je lui ai demandé quand même le prix en pensant que lui, il avait des grands, mais j'avais vu un petit. Bon, j'ai abandonné très vite l'idée d'en acquérir un. Mais en fait, ce qui m'a fasciné, c'est cette quête du vide. Cette quête de... Il y a un rapport au vide et à l'espace qui est absolument passionnant, au-delà de l'aspect psychologique ou simplement intellectuel du fait de réfléchir au vide. Il y a toute une notion qu'on peut se poser en tant que musicien, parce que ce qui fait la beauté d'un interprète, c'est sa façon de remplir les silences, ce qui fait qu'un interprète est génial dans une œuvre ou une autre. Donc j'y ai vu inconsciemment, je pense, une sorte de parallèle avec la musique, et au-delà de ça, ce sont des œuvres qui me touchent. Et j'ai été il n'y a pas longtemps à une exposition, mais je peux rester plusieurs minutes devant une œuvre de Fontana en étant totalement pris par cette espèce de vide sidéral qui me remplit, curieusement.
Fontana, c'est le fondateur du mouvement spatialiste qui est créé en 1947, et il dit dans son manifeste de l'art spatial en 51 qu'il veut ouvrir l'espace, créer pour l'art une nouvelle dimension, le rattacher au cosmos tel qu'il s'étend infini au-delà de la surface plate de l'image. Dans son œuvre, on voit autant des monochromes perforés que des sortes de matières cosmiques informes dans des sculptures, que des œufs, les œufs célestes. Qu'il sous-titre La fin de Dieu.
Moi, ce qui me touche beaucoup chez lui, c'est ses œuvres perforées. Il y a quelque chose de complètement à la fois abstrait et en même temps extrêmement concret, dans le sens où ça vous touche, alors que vous regardez simplement une fente dans un tableau. C'est quelque chose quand même d'assez incroyable. Ne me demandez pas pourquoi ça m'a touché. En tout cas, je dois dire que j'ai été... Il n'y a aucun snobisme. J'étais quelqu'un qui était assez, sinon allergique, en tout cas, qui ne connaissait pas tellement l'art contemporain. Et j'ai été bouleversé par ses œuvres.
Les gens qui se déplacent au sport d'hiver à Noël, par exemple, disposent de fort peu de temps. Et je pense que si on peut leur faire gagner sur place, là où ils habitent, déjà 2 ou 3 jours au départ, c'est vraiment un bénéfice extraordinaire.
Alors il suffit pour cela qu'ils s'entraînent chez eux à ski. Et cela, Jean Vuarnet va vous le démontrer tout de suite avec un appareil qu'il a mis au point. D'ailleurs, il n'en existe qu'un seul exemplaire qui s'appelle le Home Ski.
Bien, l'appareil permet de faire des reprises de quart. Vous voyez que... Il existe une bascule. Il permet également de cultiver les flexions-extensions. Voilà. Et on peut réaliser aussi bien un christianien léger qu'un christianien moderne ou de la godille sur l'appareil.
Le skieur alpin Jean Vuarnet au micro de Raymond Marcillac en 1960. Votre activité consolatoire, Renaud Capuçon, c'est le ski. Est-ce qu'il y a l'influence de votre ville natale et de ses environs, Chambéry?
Bien sûr, le ski, c'est toute ma vie. J'étais sur des skis en même temps que le violon. Ah, pas en même temps.
Vous jouiez du violon en skiant?
Non, pas vraiment. Mais oui, on a commencé très tôt avec mon père et c'est une soupape de liberté extraordinaire. Chaque année, le ski est non négociable pour moi. C'est-à-dire que il y a une partie des vacances d'hiver où je dois aller sur les pistes. C'est quasiment vital pour moi. C'est un besoin, d'abord de se ressourcer, de prendre l'air. Et je me retrouve plus vieilli. En fait, plus je disais il y a pas longtemps à ma famille que j'allais terminer comme un ermite dans un chalet en montagne quand je serai très vieux, parce que, bien que ça soit assez peu probable. Mais en tout cas, il y a une sorte d'adéquation entre l'artiste, le musicien, l'homme et cet état de la montagne qui fait totalement partie de mon univers.
Vous allez terminer peut-être comme Jean-Jacques Rousseau, qui a fait beaucoup d'éloges de Chambéry.
Absolument, il est à sa maison d'ailleurs, au Charmettes.
J'ai vécu tranquille et toujours bien voulu dans Chambéry. S'il est une petite ville au monde où l'on goûte la douceur de la vie dans un commerce agréable et sûr, c'est Chambéry.
Écoutez,
termine sur cet éloge savoyard.
C'est très sympathique.
Merci beaucoup Renaud Capuçon d'être venu dans cette émission. Votre discographie est chez Erato. Votre dernier enregistrement est paru le 23 mars. Bartók Concerto pour violon, toujours chez Erato. Vous êtes accompagné par le London Symphony Orchestra, dirigé par François-Xavier Roth. Vous serez en concert à l'auditorium de la Maison de la Radio le vendredi 18 mai au programme Debussy, Ravel et Schoenberg avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France au piano et à la direction Lahav Shani. Beaucoup d'autres concerts en prévision. Jeudi 31 mai à la synagogue Neve Shalom à Istanbul. Jeudi 7 juin au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Je renvoie les auditeurs vers votre site pour avoir toutes les dates. Le 15 et 16 juin, vous serez au Château de Versailles et le 14 octobre à l'Olympia pour Renaud Capuçon au cinéma. Chers auditeurs, la programmation musicale, tous les remèdes sont sur le site de l'émission. J'espère que votre humeur a maintenant le flegme d'un bigoudi espion. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h en compagnie de l'écrivain et assistante sociale scolastique Mukasonga.